Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier Marc Lévy.
Quand Zuckerberg vous dit avec un grand sourire « Nous avons créé Facebook pour réunir le monde », c'est un mensonge. Mais vous voyez, c'est à lui foutre des claques.
C'est un Marc Lévy combatif et inspiré qu'on retrouve avec Le Crépuscule des Fauves, qui paraît chez Robert Laffont et Versilio. Il s'agit du deuxième volet de la saga 9, entamée en septembre dernier avec C'est arrivé la nuit. Ces héros, une bande de hackers de plusieurs nationalités qui partent en guerre contre une mystérieuse organisation qui manipule nos informations personnelles par le biais des nouvelles technologies. C'est tout sauf de la fiction, à en croire l'auteur aux 55 millions de livres vendus. Avec ce thriller, Marc Lévy dénonce les dérives des géants de la big tech et des réseaux sociaux, à commencer par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Quelque chose me dit que ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble, même en éteignant leur téléphone portable avant.
Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien et vous ?
Bah oui, très bien, en ce début d'année. On est encore en pleine pandémie, mais les écrivains sont là pour nous changer un peu les idées. Vous avez un rôle presque médical à votre manière, non ? Avec les romans, non ?
Médical, je ne sais pas. Mais oui, enfin, le roman, c'est un moyen d'évasion à un moment donné où on est confiné. Et donc, qui apporte un bien-être assez extraordinaire, quoi. D'autant que l'évasion par l'image et par le cinéma est pour moi, en tout cas en tant que lecteur et passionné de cinéma, autant j'arrive dans un livre à me retrouver vraiment transposé dans le décor, un film, je suis spectateur. Vous voyez, un livre, j'en deviens acteur. Et donc, je trouve que le livre a un pouvoir de transposition et d'évasion beaucoup plus fort, en fait. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que l'un est plus important que l'autre. Hein. Je parle simplement de l'émotion que cela procure. Donc, vous voyez, c'est vrai que le livre, c'est en période de confinement, c'est un extraordinaire vecteur de resocialisation, de d'ouverture de l'espace, finalement de déconfinement. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire.
Cette saga, on est d'accord, Marc, vous l'avez imaginée, pensée avant tous les événements qu'on traverse en ce moment.
Bien sûr. Oui, j'ai commencé à travailler sur cette saga il y a 3 ans, donc le confinement n'était absolument pas... Et d'ailleurs, j'ai décidé de pas l'intégrer dans l'histoire. D'abord parce qu'elle n'était pas au cœur de l'histoire, et c'était pas le sujet. Et puis, en même temps, c'est vrai que en écrivant le roman, je voyageais tellement moi-même et je retrouvais tellement une liberté que j'avais pas du tout envie de la contraindre.
Parce que moi, j'ai eu l'impression justement que c'était ce qui est sympa, c'est que effectivement, on voyage, on est dans plein de pays à la fois, simultanément, hein, d'un chapitre, d'un paragraphe à l'autre. Et avec un roman comme ça, on fait tout ce qu'on ne peut pas faire en ce moment. C'est drôle, quoi.
Enfin... Oui, c'est absolument. C'est vrai que le roman nous emmène de Oslo à Rome, en passant par Londres, en passant par les îles anglaises de Jersey, et puis on se retrouve à Tel Aviv, et puis... Et donc, c'est vrai que ça, on voyage, enfin, on va en Ukraine, et donc on voyage, et surtout, on voyage, et puis ensuite, il y a ce que le roman raconte.
Alors, justement, cette envie de saga, est-ce qu'elle est liée aussi au type d'histoire que vous vouliez raconter ? Est-ce que vous auriez pu raconter comme ça une histoire en plusieurs livres sur un autre thème, ou ce thème-là se prêtait bien, cet univers-là se prêtait bien à ce côté feuilletonesque dans lequel vous êtes en ce moment?
En fait, il n'y a pas de calcul préalable. C'est la deuxième fois que je fais ça. Et dans le premier jour et la première nuit, le roman se racontait sur 2 tomes. Il n'y a pas un calcul préalable où on se dit « Tiens, je vais écrire 2, 3, 4 tomes ». En fait, il y a une histoire qu'on raconte Et moi, comment dire, au bout de 500 pages, je me rendais bien compte que j'en étais encore qu'à la moitié de mon histoire. Je n'allais pas sortir un livre de 1000 pages. Et donc, je l'ai coupé en deux tomes. Et puis ensuite, il y a un lien qui s'est créé avec les personnages auxquels je me suis énormément attaché. Et à partir de là, il y a aussi l'envie de ne pas quitter ces personnages, de rester dans cette bande de hackers et de continuer l'aventure avec eux. Et puis, troisième volet, qui est le plus important, c'est que c'est un livre c'est une fiction qui est ancrée dans la réalité, qui relate des enquêtes menées par ces vrais hackers. Et la matière me passionnait tellement que de la raconter m'entraînait dans un récit que je n'ai pas su contenir en un seul tome. Et je dois dire que même si avec le deuxième tome, la première grosse enquête menée par les neuf se boucle, j'ai évidemment envie de continuer l'aventure avec eux et d'en écrire une autre.
Alors les hackers, ils s'insinuent dans tous les lieux, tous les endroits auxquels qu'on n'imagine pas. Ils ouvrent toutes les portes. Vous, quelle a été votre porte d'entrée dans cet univers des hackers ?
Ça, c'est vraiment l'information que je ne peux pas communiquer par respect de leur sécurité et par respect de par confidentialité. Disons que mon passé dans la Silicon Valley, dans les années 80, m'a permis de rester en contact avec ce qu'on appelle de vieilles branches. Mmh. Et de contact en contact et de rencontre en rencontre. On arrive à un moment donné, avec un peu de chance et beaucoup de persévérance, à rencontrer les bons acteurs. Comment, où, dans quelles circonstances, ça, je ne peux vraiment pas le raconter pour leur sécurité à eux. Ce serait les trahir que de donner la moindre information là-dessus. Mais les rencontrer a été décisif. Ça m'a appris énormément de choses. Et puis, surtout, pour tout vous dire... ça m'a donné l'envie irrépressible de me mêler à leur combat, quelque part.
Qu'est-ce que vous ne connaissiez pas sur l'univers des hackers, que vous ne soupçonniez pas avant de l'explorer un peu plus ?
Il est très important, quand on parle de l'univers des hackers, parce que le mot hacker est un mot qui est utilisé à bon et mauvais escient, il y a trois familles, en gros vous avez trois familles de hackers. Vous avez les hackers criminels, et comme d'ailleurs dans la criminalité physique, la criminalité des hackers va, du petit voyou de la rue au grand banditisme, et on retrouve exactement cette hiérarchie dans le milieu des hackers. Vous avez ce qu'on appelle les quarts d'heure, ceux qui vont détourner les numéros de cartes de crédit ou fabriquer des fausses cartes de crédit, ou encore ce qu'on appelle les yes cards, c'est-à-dire des cartes qui sont capables de déjouer les systèmes centraux des terminaux bancaires et qui permettent de retirer autant d'argent qu'on veut, dans une certaine limite, mais sans avoir besoin de taper un code. Et puis vous avez la grande criminalité organisée qui va, elle, aller hacker des banques et voler un certain nombre de millions de dollars. Bref, vous avez les White Hats. Les White Hats, ce sont les hackers qui, en général, ce sont tous d'anciens Black Hats reconvertis qui, se servant de leurs compétences, trouvent à un moment donné de la vie ou confrontés dans certaines circonstances qu'ils ont plus intérêt à mettre leurs compétences au service de la sécurité qu'au service du vol. Et d'en faire carrière. Ces hackers, qu'on appelle les White Hat, travaillent du côté de la sécurité informatique. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils travaillent toujours du bon côté de la force. Parce que si vous travaillez pour la sécurité informatique, d'une dictature ou d'un pays autocratique ou d'une entreprise totalitaire ou d'une entreprise de propagande, vous travaillez quand même pour les bad guys. Et au milieu de ça, vous avez un tout petit groupe de hackers qu'on appelle les Grey Hats, qui sont des hackers qui mettent leurs compétences de hack au service du bien. Mais ce qui ne les empêche pas quand même, malheureusement, de travailler dans l'illégalité. Si vous allez chercher dans le coffre-fort d'un criminel les preuves de sa criminalité, Bah, en entrant chez lui par effraction, vous avez vous-même commis un crime. Moral, certes, mais c'est quand même un crime. Et comme on vit dans une société qui protège malheureusement plus la grande criminalité en col blanc que ceux qui la dénoncent, et bien ceux qui la dénoncent, mais à cœur en question, les Goyats risquent, prennent des risques énormes, et notamment le risque de passer leur vie en prison. C'est pour ça que je ne peux pas révéler vous voyez, comment je les ai rencontrés, ni où. Mais leur combat, leur courage, leur intelligence, hein, leur sens de la démocratie, et surtout leur compréhension de ce qui est en train de se passer en ce moment et de la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment, m'a donné envie de raconter leur combat.
Ah, vous le disiez, la Silicon Valley et cet univers de l'informatique, vous l'avez connu au début de... J'ai presque dans une autre vie, en tout cas au début de votre carrière professionnelle. Qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui? De l'informatique et les nouvelles technologies de l'information, elles sont partout. Est-ce qu'on vit dans un monde de science-fiction, quelque part?
À partir du moment où... la technologie s'inscrit dans votre quotidien, elle n'est plus de la science-fiction, elle n'est plus de la fiction, elle est une réalité. Donc, non, on ne vit pas du tout dans un monde de science-fiction. La vraie question que vous pourriez poser, c'est est-ce que le monde dans lequel on vit est un monde orwellien ? La réponse, malheureusement, est oui. Le monde est orwellien puisque, à des fins commerciales et à des fins de manipulation politique et sociétale, des entreprises collectent en permanence, à notre insu, des données et les réagrègent pour nous profiler à notre insu et sans notre consentement pour ensuite encore nous manipuler d'une certaine façon, provoquer en nous des besoins que nous n'avons pas ou modifier la façon dont nous pensons. Ça pourrait paraître un discours de science-fiction, ça ne l'est pas, c'est la réalité.
Disons que c'est la science-fiction telle qu'on l'imaginait dans les bouquins des années 60.
C'est une réalité, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Facebook a vendu les données collectées de 55 millions de ses utilisateurs à une entreprise spécialisée dans la manipulation politique, et ça a donné naissance à un scandale mondial qui s'est appelé Cambridge Analytica. Les conséquences sociétales de ce scandale sont considérables. Les condamnations en justice des dirigeants de Cambridge Analytica et de Facebook, elles, sont assez marginales. Pourquoi est-ce que le scandale de Cambridge Analytica a été découvert ? Parce que des enquêteurs et des lanceurs d'alerte se sont intéressés, ont réussi à amener les preuves que les données avaient été, non pas volées, mais volontairement vendues par... Aucun être humain aujourd'hui ne peut prétendre qu'il sait exactement quelle quantité de données et quel type de données sont collectées sur lui par les géants de la tech. Or, cette quantité de données est considérable. Les applications qu'on installe dans nos portables collectent des données en permanence, nos mouvements et... comme je le raconte dans le roman, avec une sophistication dans la collection des données qui dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Votre portable est équipé d'oscilloscopes qui analysent en permanence les mouvements que vous faites et qui finissent par apprendre la logique de ces mouvements et donc, à cause des mouvements de votre portable, à déduire ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en train de vous laver les dents? Est-ce que vous êtes en train de manger, de boire? À quelle vitesse vous mangez? Des milliers et des milliers d'informations servent à établir un profil psychologique de l'individu qui fait que les géants de la tech vous connaissent mieux que ne vous connaîtront jamais les membres de votre famille et les membres de votre entourage. À partir de là, appuyez sur le bouton pour vous faire réagir dans un sens ou d'un autre et d'une facilité déconcertante. Donc, est-ce que l'usage de la technologie aujourd'hui est orwellien ? Vous pouvez ou pas en faire tirer vous-même une conclusion. Ce matin, une étude publiée par une organisation mondiale démontrait que 75% de la population mondiale vit sous un régime où les gens ne sont pas libres. 75% de la population mondiale. Ça fout les jetons, hein.
Après, ça dépend de ce qu'on appelle la liberté.
La liberté, c'est de la liberté de dire ce que l'on pense, C'est la liberté de vivre selon sa croyance, c'est la liberté de vivre selon son mode de pensée, et c'est la liberté de pouvoir vivre en fonction de l'identité qu'on a choisie, qui est la nôtre. Ça, c'est déjà des libertés fondamentales. Vous voyez ?
Est-ce que vous, cette réalité qu'on décrit, ça fait de vous pour autant un technophobe, Marc ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est exactement comme si ceux qui se sont battus pour la sécurité routière disaient qu'ils étaient anti-voiture. Ils n'ont jamais été anti-voiture. L'invention de la voiture n'est pas à remettre en cause. C'est une invention absolument géniale. Et vous voyez, et le camion avec. Mais l'usage qu'on a fait de la voiture et des engins motorisés pendant des années a été un usage dont la toxicité et la nocivité devenaient beaucoup trop importantes hein, pour qu'on puisse laisser les choses en l'état. Donc on a réagi. On a réagi, on a créé des normes environnementales, on a créé des normes de sécurité. Et je dirais qu'on a raisonné l'outil. Aujourd'hui, c'est pas la technologie qui est en... Moi, je suis un fou de technologie, je suis un geek. C'est pas... Aujourd'hui, ça n'est pas... Aujourd'hui, ça n'est pas la technologie que je condamne, moi, violemment. Ce sont les gens qui s'enrichissent à outrance avec cette technologie par des méthodes qui sont des méthodes criminelles. J'en reviens en ce moment... moi, j'en veux énormément à Facebook et à Zuckerberg et à Sanders et à tous ceux qui... Pourquoi ? Parce que Facebook est devenu la plus grande plateforme de propagande. Et que le comportement de cette entreprise qui fait qu'aujourd'hui, Zuckerberg pèse 100 milliards de dollars à lui tout seul. Donc voilà, vous avez une entreprise qui est devenue la plateforme de référence de tous les extrémismes et de tous les fascismes possibles sur la planète, qui a sans aucun doute propulsé et donné un élan considérable à la poussée des extrémismes de toute nature. Qui est impliqué dans la propagation de fausses nouvelles qui ont conduit à un génocide, qui a laissé faire, uniquement pour des raisons pécuniaires et d'enrichissement, la prolifération des fausses nouvelles et l'installation d'un monde où les moyens donnés aux fausses nouvelles sont beaucoup plus importants qu'aux vrais. Donc, comme pour citer Baron Cohen, Goebbels n'aurait pu rêver d'un outil de propagande comme celui de Facebook. Et ce n'est pas une entreprise. Quand Zuckerberg vous dit avec un grand sourire « Nous avons créé Facebook pour réunir le monde », c'est un mensonge. Mais vous voyez, c'est à lui foutre des claques. Il a créé un outil qui a fait de lui un multimilliardaire et en même temps, un fou mégalomaniaque qui est en train de détruire la démocratie. Et avec une espèce de grossièreté incroyable. Oui, ça, j'ai envie d'entrer en guerre contre eux. Mais comme aujourd'hui, vous voyez, de grands reporters sont entrés en guerre contre eux, et comme aujourd'hui, ceux qui ont un sens de ce qu'est la démocratie, ceux qui se souviennent des dangers du fascisme, et ceux qui ont un sens de l'humanité, qui ont plus d'amour pour l'humanité que pour l'argent, ce qui n'est pas le cas de Zuckerberg, ont envie de se battre contre cette entreprise. Et moi, je sais que je me battrai jusqu'à ce que... c'est le combat de David contre Goliath. Mais j'espère qu'un jour, Zuckerberg passera par la case prison sans toucher les 20 000 francs pour les crimes qu'a commis son entreprise.
Est-ce que la pandémie qu'on traverse, elle ne renforce pas quand même cette tendance au traçage, au pistage des individus ? En ce moment, en Europe, on parle de créer un passeport pour les individus, pour savoir si...
On confond tout. Créer un passeport pour la vaccination, je ne comprends pas en quoi c'est une privation de liberté. C'est complètement débile. Ça, vous voyez, c'est là en même temps qu'on est dans la désintoxication. Avoir une carte, c'est comme si on disait le permis de conduire, c'est une atteinte aux libertés. Vous voyez, si vous êtes vacciné, vous avez une carte disant que vous êtes plus dangereux. Basta, cosy, quoi. Si vous ne voulez pas être vacciné, vous ne voulez pas être vacciné, vous ne l'aurez pas. Mais de toute façon, il n'y a pas de débat sur la question du passeport. Il y a 30 ans, la technologie n'existait pas. Le nombre de pays où il fallait avoir un carnet de vaccination pour rentrer, c'était comme ça, ça paraissait logique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui parce que vous avez la lubie des anti-vaccins, qui eux-mêmes sont des victimes de la désinformation et de l'intoxication. Enfin, je rentrerai pas dans ce débat parce que c'est dément. Et les
réseaux sociaux leur donnent une plateforme pour s'exprimer.
Donnent une chambre d'écho qui est extraordinaire. Il y a quand même des gens. Je rigole pas quand je vous dis ça. Vous avez des dizaines de milliers de gens qui croient que Bill Gates a mis une micropuce dans un vaccin pour pouvoir nous tracer. Et ces mêmes gens se promènent à longueur de journée avec un téléphone portable dans la main, pour lequel ils ont payé en plus. C'est pas qu'on leur a dit on va vous vacciner gratuitement. Ils ont acheté le truc entre 300 et 1000 euros. Vous voyez, ils en changent tous les deux ans, histoire que la puce soit dernière. Qui est un outil, ils mettent ça sur leur table de nuit, ils ont une montre connectée, vous voyez, ils ont une brosse à dents électronique, ils ont mis des objets connectés chez eux, ils sont toute la journée, ils sont tracés, ils sont fliqués, mais ils pensent qu'on a mis une puce dans un vaccin. Non. Bonjour les petits vélos. Et ça, si vous voulez, cet abrutissement de la pensée, c'est absolument le fait de la désinformation sur les réseaux sociaux, parce que ce que je raconte notamment dans le livre, parce que mes neufs montrent et démontrent, c'est l'extraordinaire somme d'argent qui est consacrée à fabriquer des outils de désinformation. Parce que les gens qui sont touchés par la désinformation, ils le sont. Ils ne sont pas touchés par la désinformation parce qu'ils sont idiots. Ils sont touchés par la désinformation parce que les moyens techniques mis en œuvre pour désinformer sont extraordinaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous prenez une image, voilà, par exemple, c'est extraordinaire d'analyser dans la campagne électorale américaine la façon dont les images du président élu ont été manipulées pour faire croire qu'il s'endormait pendant un discours. En fait, on a pris des images d'un moment où il est en train de se recueillir et donc il a les yeux fermés, il est comme ça. Il y a un travail de montage et de modification de l'image qui est extraordinairement bien fait. Ces images sont greffées dans des images où il est en train de faire un discours. Et si vous regardez le document, une fois que le clip vous arrive sur Facebook, vous êtes convaincu que le mec s'endort au milieu d'une phrase. Et comme derrière, il y a un commentaire qui dit bah, « il est trop vieux, il est has-been bah, », je veux dire, quelqu'un de bonne foi. Donc, il y a eu un documentaire qui est paru en France il n'y a pas très longtemps, qui est un exemple extraordinaire. Enfin, un documentaire, ce n'est pas un documentaire.
On parlait de Hold Up.
Ouais. Ouais. Hold Up est un extraordinaire exemple de monument de désinformation, fait avec un cynisme absolu par des gens qui ont voulu se créer une espèce de pseudo-notoriété et qui sont deux gigantesques escrocs. C'est un formidable monument. Voilà un exemple parfait de désinformation. Mais vous regardez Hold Up, et vous êtes un peu... vous êtes secoué. Ce qui est très angoissant, c'est de se dire que voilà, ces entreprises de désinformation disposent aujourd'hui de moyens économiques beaucoup plus importants que vous pouvez en disposer, vous, pour faire un documentaire sur la... Vous voyez, un documentaire...
Sur la vérité.
Voilà. Et c'est là que Facebook, notamment, étant une chambre d'écho qui ne recule devant rien du moment que derrière elle engrange de l'argent, Parce que c'est quoi la différence aujourd'hui entre Facebook et TF1 ? La différence, c'est que si moi je vous amène un reportage bidon sur TF1, vous n'allez pas le diffuser. Parce que vous dire, mais je ne peux pas diffuser ça, c'est de la fausse information. Zuckerberg, il le diffuse.
Il dit, venez, allez-y, moi je passe.
Et s'il voit que les gens sont contents de le regarder, il le pousse. L'algorithme le pousse parce qu'il va vendre de la pub derrière et que sa fortune va augmenter d'autant.
Marc, si on remontait 20 ans en arrière, est-ce que s'il fallait choisir entre romancier et hacker, vous hésiteriez ?
Pourquoi choisir ?
Bah, je sais pas. j'ai une grande révélation en fait.
Non, mais... Pardon, c'est le romancier qui vous répond. Pourquoi choisir ? Pourquoi devoir toujours choisir ?
Je sais pas, ouais, c'est une question de journaliste, en fait.
De toute façon, par définition, le romancier est quelque part un hacker de la vie, puisqu'il met en fiction. Mais il n'y a pas de mensonge, parce que sur la couverture, il y a écrit roman.
Je fais une mini-parenthèse, mais on va revenir au roman. Au métier de romancier, mais vous seriez un bon hacker, vous en tant qu'informaticien, vous êtes...
Non, à mon âge, c'est pas... C'est, on n'est plus...
Mais vous aimiez bien ça, non?
À qui?
Je ne sais pas. Non, mais l'informatique...
C'est qui va absolument te faire dire qu'il a
non,
été...
Non, mais l'informatique et le...
Ah ben j'ai commencé dans ce milieu en 84, quand j'étais très très jeune, mais à l'époque de la préhistoire. Donc moi, je suis malheureusement un dinosaure de l'informatique. Mais je dois vous dire qu'à l'époque, quand j'étais dans la Silicon Valley, dans les années 80, il y avait un vrai projet de société. Les gens qui travaillaient les gens qui étaient dans la Silicon Valley n'étaient pas là pour devenir milliardaires. Ils étaient là, il y avait un vrai... On se disait, tiens, il y a une technologie qui va changer le monde. Et chacun réfléchissait dans son coin à la façon dont l'application de ces technologies allait changer le monde pour le mieux. Il y avait ceux qui étaient passionnés dans le biomédical, il y avait ceux qui travaillaient dans l'image, ceux qui travaillaient dans le calcul mathématique pur. Mais il y avait une vraie conscience sociale, une vraie envie, assez utopique, de changer le monde pour le mieux. La dérive a vraiment commencé avec, je dirais, la situation, avec la croissance beaucoup trop exponentielle de Google et avec l'arrivée de Facebook, qui a vraiment, à mon avis, perverti le modèle économique basé sur la... Enfin, ce qui a été une énorme erreur sociétale, et qui est lié d'ailleurs au fait qu'il y avait un très très grand écart de compréhension et de compétence entre le politique, le législateur et la technique. C'est qu'on a laissé s'installer un modèle économique qui s'appuyait sur la collecte des données privées. Et on aurait tout de suite dû comprendre la toxicité de ce modèle
économique. Les dérives que ça pouvait engendrer.
Et là, le monde toxique de la finance a au contraire accéléré ce processus. Et donc, on a valorisé la data, qui est un marché aujourd'hui. Le marché de la collecte des données représente plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Et personne n'a pris conscience assez tôt que la marchandise, c'était l'être humain. Et donc, toute entreprise de technologie dont le modèle économique s'appuie sur la collecte de données privées et de données sur le comportement et la vie des gens, travaille dans un système de trafic d'êtres humains. Si vous transposez tout ce que l'on comprend et que l'on conçoit de la collecte des données sur le physique, imaginez que ce que l'on vous vole comme données sur votre comportement, sur vos modes d'achat, sur vos lectures, sur vos centres d'intérêt. Imaginez que l'on prenne le dixième de ça sur votre physique, vous comprendrez immédiatement le viol dont on fait l'objet. Voilà. C'est un exemple un peu grossier, mais qui est très, vous voyez, qui pour moi illustre bien le propos. Je ne pense pas que vous accepteriez que votre marchand de sous-vêtements s'octroie le droit, vous voyez, de faire des photos de la plus grande intimité de votre corps, parce qu'il vous dit, si, mais je vous ai vendu le slip, c'est absolument normal que j'ai une photo de votre intimité. Vous dites, non, c'est pas normal. Écoutez, finalement, le rapport avec la technologie est exactement le même, sauf que là, c'est une autre forme d'intimité qui vous est volée en permanence.
Est-ce que le livre, au fond, c'est pas le refuge vis-à-vis de ce monde qu'on vient de décrire? Le livre, je considère que le livre numérique n'a vraiment pas pris le pas sur le livre physique. Est-ce que le moment où on lit un livre, on est dans son fauteuil ou dans son lit, on n'est pas un peu finalement, on est dans une bulle préservée de ce monde technologique qu'on vient de décrire?
Oui, enfin, c'est aussi vrai, si je me fais l'avocat du diable, je dirais que c'est aussi vrai quand vous êtes en train de regarder un film tranquillement. À partir du moment où vous êtes dans un... Le fait de s'évader, le fait de partir à la rencontre des autres, que ce soit en regardant un tableau, en lisant un livre, en étant touché par une sculpture, en allant voir un spectacle de théâtre, je pourrais prêcher pour ma chapelle et vous dire que le livre avant tout, mais je crois que ce que l'on appelle la culture répond dans son grand ensemble au lien social qui nous unit. Le livre a une particularité, c'est que quand on est au théâtre, on est autant de spectateurs qu'il y en a dans la salle, de même au cinéma. Et il en est de même aussi dans un musée, dans une salle de concert. Le livre a cette particularité qu'on le lit seul, et que d'ailleurs, on le lit tellement seul que si quelqu'un se penche sur votre épaule pendant que vous lisez, on a ce réflexe, vous voyez, de se protéger de la... Donc, il y a un rapport intime avec la lecture, alors qu'il n'y a pas de rapport intime, pour la plupart d'entre nous, avec les autres fenêtres de la culture, qui nous entraînent plutôt, d'ailleurs, à être vécus en commun. On n'a pas la même... C'est vrai que... Aller voir être ému par un tableau dans un musée, la présence des gens autour de vous ne vous dérange pas. Et au contraire, d'ailleurs, dans une salle de concert, la présence des autres contribue, vous voyez, à l'intensité de votre émotion. Le livre, c'est le contraire. Mais pour autant, je pense que le partage, l'évasion, la compréhension, la tolérance, l'amour... Tout cela, c'est vrai dans le livre, mais c'est vrai au théâtre, c'est vrai au cinéma, c'est vrai grâce à la musique. C'est toute la culture qui forme je pense, un lien social extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette période de pandémie, le soutien. Vous voyez, de la communauté culturelle, des artistes, est extrêmement important parce que si, je veux dire, si les théâtres, on se rend pas compte, mais c'est vachement le lien des théâtres, le lien du musical, le lien de la scène, le lien des festivals, tout ça, c'est vraiment important, c'est un lien social qui est vraiment important.
Bon, pour terminer, Marc, les neufs, là, ils nous écoutent en ce moment, vous pensez?
Peut-être. Je pense qu'ils sont occupés à autre chose.
Ok, merci beaucoup Marc Lévy.
Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !